d'aujourd'hui et demain dans 2000 ans d'histoire et deux jours avant la sortie du film très attendu qu'Oliver Stone lui a consacré, Alexandre le Grand. Du Nil à Babylone et de Babylone à l'Indus, Alexandre fit connaître à l'univers le nom des Grecs. Chateaubriand. D'histoire. De Jules César à Napoléon, tous les conquérants de l'histoire ont rêvé d'égaler un jour le destin de celui qui fut pour eux un modèle, Alexandre le Grand. Des collines de la Macédoine jusqu'au pied de l'Himalaya et de la mer Noire jusqu'aux cataractes du Nil, ce petit roi d'un des états les plus pauvres de Grèce était devenu en moins de 10 ans le souverain d'un des plus grands empires de l'histoire, sur lequel il a laissé son nom à 70 villes qui ont presque toutes disparu après sa mort. Mais au-delà de l'empire éphémère qu'il avait construit, Alexandre nous a surtout laissé le souvenir d'une extraordinaire épopée, commencée il y a plus de 23 siècles, lorsqu'à la mort de son père Philippe de Macédoine, assassiné en 336 avant Jésus-Christ, il héritait de son royaume et de l'ambition démesurée de sa mère Olympias, qui rêvait de voir son fils étendre un jour son pouvoir jusqu'aux limites du monde connu.
Qui a tué mon père?
Mais c'était mon père, je l'aimais!
Ce n'était pas ton père! Tu ne lui dois rien, pas une goutte de ton sang, pas une...
Je mens sans cesse, sans cesse!
Tu es tout ce qu'il n'était pas. C'était un rustre. Tu es raffiné. C'était un guerrier. Et toi, tu es un roi. Il était incapable de se maîtriser, tandis qu'un jour, tu seras le maître du monde.
Pierre Briand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France et spécialiste de l'histoire d'Alexandre, mise en scène dans un film d'Oliver Stone qui sortira après-demain dans les salles et dont on vient d'entendre un extrait. Avant de parler avec vous de l'épopée, de ce qui fut la réalité de l'épopée d'Alexandre, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de ce film qui a été d'ailleurs très mal accueilli déjà aux États-Unis par la critique et par le public.
Oui, tout à fait. Lorsqu'on pose ce genre de questions à l'historien peut répondre d'abord en spectateur. Bon, là, j'ai une idée pas particulière. Je pense que je partage de beaucoup de critiques ont été faites aux États-Unis ailleurs sur l'aspect un petit peu longué du film et un peu ennuyeux, mais ça, c'est complètement subjectif. Ce qui m'a surtout frappé dans le film, c'est son aspiration et la vision qu'il donne d'Alexandre. Et contre les critiques qui se sont déchaînées aux États-Unis et ailleurs, Oliver Stone se défend en disant « Mais Hollywood et les Américains sont incapables de comprendre mon film parce que je parle de choses trop grandes pour eux. »
Et parce qu'ils ne connaissent pas, au fond, pour eux, les Américains, l'histoire commence au moment de leur indépendance.
Voilà. Et ce que je pense, c'est que cette défense est un peu arrogante, parce qu'en réalité, son film est extrêmement, c'est ce qui m'a frappé, extrêmement conventionnel, dans la mesure où il reprend une présentation très traditionnelle d'Alexandre, insistant beaucoup sur l'aspect psychologique, et surtout insistant beaucoup sur un aspect traditionnel, très traditionnel en Europe, celui du grand conquérant civilisateur, qui est accueilli en délire, en triomphe, par des populations qui ne demandaient que la conquête macédonienne pour pouvoir s'exprimer. Et de ce point de vue-là, puisque dans beaucoup d'interviews, Oliver Stone dit que son film illustre la rencontre de l'Orient et de l'Occident, le problème, c'est que l'Occident, on le voit beaucoup à travers Alexandre, l'Orient ne voit jamais, puisque on ne voit aucun site, aucune région, aucun peuple de l'Orient.
En tout cas, ce film a été l'occasion de publier ou de rééditer plusieurs livres sur Alexandre le Grand, dont vos deux livres qui ont été réédités chez Gallimard Découverte et aux Presses universitaires de France, Pierre Briand, mais aussi un volume de la collection bouquins Alexandre le Grand, Histoire et Dictionnaire, publié sous la direction d'Olivier Battistini et Pascal Charvet. Pascal Charvet, bonjour. Est-ce que oui. Vous êtes aussi sévère que Pierre Briand sur le film, que vous avez vu aussi hein,
alors oui, je suis aussi sévère, même si j'avais toutes les raisons de vouloir que ce film fut bon. Hein. Je dois dire que l'idée que le professeur d'Oxford émérite, que nous aimons tous, Len Fox, charge lui-même à la bataille de Gaugamel, tous ces détails donnés avant, j'allais dire, que le film ne sorte, eh bien, me poussait à l'aimer par avance. Non, j'irais dans le même sens que Pierre Briand, non seulement il n'y a pas, je vais être plus dur peut-être, il n'y a pas évidemment l'Orient, et ça, je veux dire, à aucun moment, pas même l'Égypte, et il n'y a pas non plus Alexandre. Parce que Colin Farrell, aussi sympathique soit-il, n'est pas en mesure d'incarner, enfin, je veux dire, tous les textes anciens, que ce soit légende ou peu importe, mais parle de cet œil ténébreux, cet œil d'Alexandre, enfin, où passe quelque chose. Là, Colin Farrell est sympathique, mais à aucun moment dans le film, on ne peut penser qu'il est Alexandre. Et c'est cette impossibilité de s'identifier aussi, pour un spectateur tout simple et qui n'est plus l'historien, eh bien, me paraît quand même, j'allais dire, regrettable.
Alors avec vous, nous allons rétablir la réalité, vous qui êtes historien. D'abord aussi, les deux personnages, on a entendu d'ailleurs dans l'extrait de film de tout à l'heure, deux personnages importants, bien sûr, dans la jeunesse d'Alexandre, c'est sa mère, Olympias, très ambitieuse, pour son fils, qui lui affirmait même qu'il était, non pas le fils de Philippe de Macédoine, mais le fils d'un dieu. Et puis, Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre, qui avait déjà fait de la Macédoine, Pierre Briand, un état important. Quand Alexandre part à la conquête ou à l'attaque ou à l'assaut de la Perse, il est déjà le roi d'un royaume important.
Oui, bien sûr. Philippe, à la suite d'ailleurs de ses prédécesseurs, parce que c'est une longue histoire, a eu une véritable politique d'extension vis-à-vis de la Grèce, vis-à-vis aussi de l'Est, vers la Thrace et vers l'Hellespont, au point que la Macédoine est devenue en quelques années limitrophe du royaume, non pas de la Perse, mais disons du royaume de l'Empire achéménide, qui s'étendait jusqu'à l'Indus. Philippe a su tirer profit à la fois des ressources naturelles de la Macédoine, les mines d'or qu'il a su mettre en valeur. Il a su organiser la Macédoine d'une façon telle que, il a pu monter une armée extrêmement efficace, extrêmement importante, faire appel aussi à des conseillers et non seulement ça, mais ce sur quoi il faut insister surtout, et en même temps en tout cas, c'est sur l'essor culturel de la Macédoine, même avant Philippe. Mais la Macédoine est fortement hellénisée à l'époque de Philippe II de Macédoine. Des artistes grecs sont nés déjà bien avant Philippe II, des théâtres existent, des villes existent, et contrairement à ce qu'on a pu penser pendant très longtemps, la Macédoine est un royaume très développé. Je dirais que l'époque d'Alexandre s'est beaucoup renouvelée, contrairement à ce qu'on pense, grâce à un simple fait, c'est que se croisent là deux histoires qui sont très profondément renouvelées, l'histoire de Macédoine d'une part, l'histoire de l'Empire achéménide de l'autre. Et donc on connaît infiniment mieux l'histoire d'Alexandre que ce qu'on connaissait il y a encore 25 ou 30 ans.
En tout cas, avant Alexandre, son père avait déjà envisagé de lutter de rassembler les Grecs contre l'Empire perse, une ambition partagée par celui auquel Philippe avait confié l'éducation de son fils Alexandre et qui n'était autre que le plus grand philosophe grec de l'époque.
Aristote, la Grèce suivra-t-elle mon père?
Je l'ignore, et lui aussi. Sais-tu à quel point l'Empire des Perses est vaste?
Il va du Nil jusqu'à l'Indus, et depuis Samarcande jusqu'à Babylone.
Et bien au-delà. Sais-tu combien de peuples différents l'habitent?
Par cœur. Les Cariens, les Arméniens, les Juifs, les Parthes, les Égyptiens. Je connais leurs coutumes et leurs dieux.
Oui, et c'est plus qu'un empire, c'est un colosse. Il ne peut être gouverné que par un homme ayant ton envergure et ton mérite. C'est pourquoi je te dis patience.
Patience. Mon destin est bien court.
Court?
Quand le puissant Zeus, le père d'Achille, lui proposa de faire son choix entre une longue vie obscure et une vie courte mais comblée de gloire, Achille choisit la gloire. J'en ai fait autant.
Et c'était l'extrait d'un autre péplum consacré il y a 50 ans à Alexandre avec Richard Burton dans le rôle d'Alexandre, qui était donc l'élève d'Aristote. Aristote qui, comme tous les Grecs, ne rêvait que d'en découdre avec l'Empire perse, qui était l'ennemi héréditaire des Grecs depuis deux siècles, Pierre Briand.
Je ne sais pas du tout si Aristote rêvait d'en découdre.
Non, on n'en sait pas grand-chose, mais enfin, on peut le supposer, il était grec. Et c'est vrai que c'était déjà l'ennemi.
Oui. Oui, sous Aristote, je dirais seulement qu'on a probablement beaucoup exagéré l'influence qu'il a eue sur Alexandre. Du moins, on n'a pas de détails qui permettraient de dire très précisément l'influence qu'il a eue sur Alexandre, ni sur les plans qu'Alexandre a formés de la conquête de l'Empire achéménide. Peut-être que Pascal Charvet a des détails.
Oui, ben, j'aimerais juste préciser deux choses, parce que en particulier dans le film, et souvent même d'ailleurs, je veux dire, chez certains critiques, on voit apparaître cette idée d'un Alexandre qui cherche à créer un État absolument multiracial. Or, s'opposant par là à Aristote, qui pense effectivement qu'il n'y a aucune fusion possible avec les peuples barbares, donc en quelque sorte le disciple se rebellant contre le maître. En fait, on n'a pas de preuves certaines que cet État ait dû être multiracial. Il est beaucoup plus pénétré de cette vision, si vous voulez, j'allais dire grecque des choses, hein, d'héléniser le monde. Hein. Donc d'abord, il y a cela. Et deuxièmement, les conflits qu'on a pu exagérer avec Aristote, ou cette influence même exagérée, elle est facile à voir dans la mesure où, à constater dans la mesure où Aristote continue à maintenir des liens, mais des liens d'intérêt scientifique. Il va confier à Alexandre le soin de lui faire envoyer évidemment tous les spécimens de faune, de botanique, d'animaux qu'il peut rencontrer, parce qu'il continue à s'intéresser à ces découvertes. Et en ce sens, oui, il y a un compagnonnage, mais une influence politique. Alexandre est trop formé pour être simplement, j'allais dire, l'instrument d'Aristote.
Je voulais simplement qu'on rappelle quand même, Pierre Brion, pour ceux qui l'ignoraient, qu'il y a un contentieux depuis très longtemps entre les Grecs, et depuis 150 ans, depuis les guerres médiques, ce qu'on appelait les guerres médiques, entre les Grecs et les Perses, ouest de l'actuelle Turquie, il y avait des villes grecques qui étaient sous l'autorité des Perses.
Oui, de ce point de vue, d'ailleurs, le contentieux, ou disons la rencontre, plus étonnant, la rencontre conflictuelle, est même plus ancienne, elle date de 550, lorsque les Perses arrivent en Asie mineure occidentale, ils conquièrent l'Asie mineure occidentale avec Cyrus, et par ailleurs, donc un peu plus tard, sous Darius et sous Xerxès, nous sommes entre 490 et 480, donc les Perses mènent deux expéditions contre les Grecs qui se terminent par des défaites. Et par la suite, donc, les cités grecques d'Asie mineure, dont de la côte occidentale de Turquie, sont tantôt sous la coupe d'Athènes, tantôt sous la coupe des Perses. Et on s'est beaucoup focalisé sur cet aspect de revanche des Grecs. Je dis pas que ça n'existe pas, puisque les Rois macédoniens eux-mêmes ont su utiliser ce slogan de guerre de représailles pour faire écho aux destructions que Xerxès, en 480, avait opérées contre les temples d'Asie, de Grèce et d'Athènes. Cela étant, c'est sans pas la raison principale qui a poussé Philippe ni Alexandre à monter de telles expéditions, car l'expédition de Philippe c'est une chose, et puis son Alexandre en est une autre. Disons qu'il y avait une logique propre qui était la logique royale macédonienne, et comme il fallait absolument qu'auparavant la Grèce soit tranquille, il fallait unifier la Grèce autour d'un slogan qui était celle de la revanche contre les Grecs, contre les Perses. Mais disons que c'est un aspect parmi d'autres. C'est un aspect.
Et l'unifier cette Grèce divisée en cités, l'unifier si besoin était, et c'est ce qu'a fait Philippe par la force, avec la fameuse bataille de Chéronée contre les Athéniens en 338. Chéronée, au lendemain de laquelle Philippe imposait aux cités grecques une alliance, la Ligue de Corinthe, qui lui permettait d'établir son autorité sur presque toutes les grandes cités de la Grèce.
Nous ne demandons ni rançon, ni tribut. Tous les Athéniens, prisonniers de guerre, seront libérés. Nous demandons que toutes les cités, les États et les nations de Grèce conviennent qu'aucun Grec, en aucune partie du monde, ne prenne les armes contre nous. Tous les États représentés ici doivent accepter de fournir des hommes, des armes, des navires pour faire la guerre aux Perses, jusqu'à la victoire.
Mais la victoire de qui ?
Tels sont les termes du traité.
Vous voyez, Athéniens, nous avons même perdu jusqu'au droit de choisir pour qui et pourquoi nous devrons mourir.
Mais que ne gagnez-vous pas en échange? Pour la première fois dans l'histoire, la Grèce est une nation apte à se mesurer avec n'importe quel empire. Une nation dont le destin, la mission divine, est d'apporter au monde la culture et la civilisation grecque. Vous avez à présent l'unité et la force nécessaires pour remplir cette mission. C'est ce que moi je vous apporte.
Ça n'a pas été simple, Pierre Brion, pour Philippe de Macédoine, puis son fils Alexandre, de rassembler, parce que c'était nécessaire pour eux, de rassembler les cités grecques derrière lui, d'établir, de faire en sorte que par la Ligue de Corinthe, Philippe puis Alexandre deviennent les hégémones. C'est franc, ça veut dire général en chef, ça voulait dire en fait d'où vient le mot hégémonie, c'est-à-dire les généraux en chef de cet ensemble qu'ils vont porter contre les Perses.
Bon, c'est d'autant moins simple que cette union, c'est beaucoup dit, enfin disons ce rassemblement autour d'une ligue à vocation à la fois défensive et offensive, ce rassemblement a été opéré quand même contre la volonté de beaucoup de Grecs. On ne peut pas dire qu'il y ait eu un enthousiasme délirant autour de Philippe ni d'Alexandre au départ. Et d'ailleurs, l'opposition restait très très souterraine d'une part d'abord et puis ouverte très vite contre les intérêts macédoniens lorsqu'Alexandre est parti contre l'Empire achéménide, puisque on a eu un soulèvement soulèvement, alors qu'Alexandre n'avait pas encore conquis l'Égypte, un soulèvement qui se produit dans le Péloponnèse et qui s'étend un petit peu dans... Donc on peut pas dire qu'il y ait un enthousiasme. Disons que les cités grecques ont fait contre mon vaisseau du fond comme bon cœur. La force est du côté de Philippe. Elles n'avaient plus les moyens de se rebeller, de mener la bataille. Elles se sont donc ralliées derrière Philippe, mais avec beaucoup de réticence.
Pascal Charvet.
Oui, alors j'ajouterais simplement une anecdote qui est fameuse pour montrer à quel point elles étaient non seulement réticentes, mais même encore et par la suite hostiles. Lorsqu'on annonce la mort d'Alexandre, l'orateur athénien Démade dit cette fameuse réplique. Alexandre mort? Non, ce n'est pas possible. L'univers entier... Enfin, son cadavre ferait puer l'univers entier de sa pourriture. Donc oui, je dirais, ce n'est pas le seul. C'est vraiment contraint et forcé, et cette unité, elle s'est faite à la pointe de la lance.
Et d'abord donc avec Philippe de Macédoine, qui prépare cette fameuse expédition contre les Perses, contre l'Empire achéménide, et qui est assassiné en 336, avant même de pouvoir commencer. Alors on a trouvé que c'était assez bizarre cet assassinat. On a évoqué la possibilité qu'il ait été assassiné par sa propre femme, Olympias. Il faut dire qu'il avait plusieurs femmes, hein, Philippe. En tout cas, c'est à la mort de Philippe qu'Alexandre devient roi de Macédoine.
Oui, enfin, on peut s'étonner de l'assassinat de Philippe, sauf que si on fait une étude statistique, l'assassinat des rois de Macédoine était le mode normal, je dirais, de succession. Donc, ce qu'a fait Alexandre en arrivant au pouvoir, c'est qu'il a assassiné et fait disparaître un grand nombre de la parentèle, de manière d'avoir plus concurrents. Quant à s'imaginer si Philippe a été assassiné sur la volonté d'Olympias, voire sur un complot d'Alexandre, je pense que on peut toujours se poser, parce qu'on a toujours la théorie du complot. Cela étant, il a été assassiné comme beaucoup de ses prédécesseurs, et Alexandre est devenu roi très vite, sans énormément de problèmes. Il a su s'imposer. Voilà, ce qu'il fallait pour un roi, un fils de roi comme était Alexandre, c'était après imposer sa personnalité, imposer ses armes, s'imposer à l'armée, s'imposer à la caste nobiliaire, et finalement leur montrer à tout le monde qu'il était le mieux à même de guider la Macédoine sur des projets grandioses, ce qu'il a fait immédiatement, car il a immédiatement proclamé sa volonté de partir à l'assaut de l'Asie mineure en suivant les traces de son père, mais certainement avec des projets infiniment plus grandioses et plus affirmés que n'étaient ceux de son père, qu'on connaît mal au demeurant. Son père a envoyé des troupes en Asie mineure qui ont remporté des succès puis des revers, mais on n'en sait pas beaucoup plus.
C'est quand même un projet insensé quand on voit ce qu'est cet empire des Perses à l'époque, qui est absolument gigantesque et au regard duquel les cités grecques, même rassemblées, ne pesaient pas bien lourd. Pascal Charvet, oui.
Oui, bien évidemment, le projet est d'importance. Hein. Il faudra, j'allais dire, tout le génie d'Alexandre pour parvenir à triompher, car il y a là aussi des images d'Épinal. L'Empire perse, mais ça a été bien montré par Bienbriand, n'est pas du tout un empire facile à conquérir. Hein. Ce n'est pas un empire qui est prêt à tomber au seul moment où Alexandre franchirait le détroit du Bosphore. Mais tout cela sont des visions un peu simples. Hein. Et je crois que là, il faut bien comprendre qu'Alexandre ne part pas n'importe comment. On a trop souvent tendance à minimiser le rôle de Philippe. Philippe a créé une armée étonnante. Je crois que si on ne prend pas bien garde à cela, il a créé une armée étonnante, qu'il était déjà avant l'armée macédonienne, la phalange macédonienne. Mais il a, lorsqu'il a été otage à Thèbes, après la grande époque, enfin au moment de la grande époque de Thèbes, il a appris des généraux thébains, il a observé, il a regardé, et il a refaçonné son armée, ce qui fait qu'Alexandre la perfectionnera sans aucun doute, mais qu'Alexandre part à la tête d'une armée extrêmement puissante, non pas forcément en nombre, mais puissante par sa stratégie et par ses qualités guerrières. Ça, à mon avis, c'est là qu'on peut trouver au départ, je dirais, le ressort essentiel. Hein.
Pascal Charvet vient d'évoquer la phalange Pierre Briand. Il faut peut-être rappeler ce que c'est. Ça compensait au fond tactiquement la faiblesse numérique des Grecs.
Je vous rappelle tout de même que lors de la première bataille, la faiblesse numérique est du côté des Perses, pas du côté des
Grecs. Non, mais la phalange, on a beaucoup dit que c'était l'arme qui a servi, qui a permis la conquête, justement. C'était quoi la phalange? C'était en fait une formation.
La phalange, essentiellement, c'est un bloc qui n'a pas été inventé par Philippe. Je veux dire, le principe même d'une phalange, c'est-à-dire d'un bloc compact de fantassins armés de longues, très longues lances et de boucliers, c'est une chose qui remonte à l'époque archaïque et qui perfectionné à l'époque classique. Disons que Philippe a modernisé cette phalange, lui a donné un nouvel élan, mais disons que le principe de base reste le même, c'est d'opposer un bloc unis de fantassins armés de boucliers et de lances qui ne cèdent jamais. Et comme on l'a montré très souvent, c'est qu'effectivement, tout est fondé aussi sur, c'est fondé en partie sur le mental, car imaginez qu'un bloc de la phalange cède, c'est tout qui cède. Donc c'est fondé aussi sur le mental. Donc il est très difficile. Moi, je suis pas un spécialiste d'histoire militaire, donc je ne prendrai pas position sur la raison de victoire d'Alexandre, car je vous dis ma seule remarque. Si on me pose la question, je vous dirais, je n'en sais rien.
En tout cas, victoire sur les Perses, oui.
Oui, non, je dois dire que c'est vrai qu'on ne peut pas le savoir, sans aucun doute. Je crois que vis-à-vis d'Alexandre, il faut être très, très, très humble parce qu'on a peu d'éléments. Néanmoins, c'est vrai qu'il a perfectionné quand même. Il a su intégrer au fur et à mesure dans son armée. Enfin, ça, on le verra plus tard. Un certain nombre d'éléments qu'il rencontrait. Enfin, il a eu cette intelligence. Maintenant, pour la stratégie, c'est une autre affaire. Elle a été racontée par des historiens qui étaient ses compagnons.
En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'en 334 avant Jésus-Christ, commençait donc l'épopée d'Alexandre.
Soldats! Vous avez été rassemblés ici? Dans la plaine où coule l'Axios, par mon père Philippe, afin d'accéder aux plus grandes gloires et aux richesses qu'aucune armée depuis que le monde est monde n'a encore atteinte ou connue. Nous conquérons et détruirons cet empire des Perses. Rien n'est changé, si ce n'est le nom de votre roi. Alexandre ! Alexandre ! Alexandre ! Aujourd'hui, je revendique toute l'Asie comme terre de conquête.
Et c'était un autre extrait du film de Robert Hossein. Quel est l'objectif d'Alexandre en 334 quand il franchit le Bosphore et quand il pénètre sur les territoires de l'Empire des Perses? Est-ce que c'est la libération des cités grecques? Est-ce que c'est ça, c'est le prétexte? Est-ce que c'est la gloire, le goût de la conquête ou tout simplement les richesses, l'intérêt pour les richesses de la Perse, Pierre Briand?
Je crois que c'est à la fois tout ça en même temps. Mais disons que je veux rester sur un point qui me paraît très important, c'est qu'effectivement, avec Alexandre, il y a une sorte de révolution copernicienne qui se produit. C'est-à-dire que des expéditions grecques en Asie mineure, il y en a eu énormément depuis 2 siècles. Mais c'est la première fois, je pense, que quelqu'un qui vient de Macédoine, d'Europe, a la volonté et l'ambition de conquérir des territoires, de créer un état territorial, c'est-à-dire d'étendre la Macédoine. Oui. Est-ce qu'il a déjà en tête l'ensemble de l'Empire achéménide? Je n'en sais rien. Je crois seulement qu'il a déjà de très vastes ambitions territoriales. La conquête de la côte d'Asie mineure, certes, est une étape indispensable. La libération des cités grecques, là encore, est un slogan, parce que les cités grecques ne sont ni plus ni moins libres qu'elles étaient sous la domination achéménide. Le problème n'est pas là. C'est que je crois qu'avec Alexandre, ça me paraît évident, même si on le nie parfois, Alexandre n'a pas découvert le Proche-Orient tout d'un coup, au fur et à mesure. Il avait déjà des connaissances. Il avait déjà des connaissances non seulement sur l'Empire perse, sur son administration, sur une partie de la géographie de l'Empire perse, en tout cas certainement sur les côtes, les littoraux d'Asie mineure et d'Égypte. Et il avait certainement, pour le moins, l'ambition de vaincre Darius et de s'emparer de la personne de Darius, ce qui revenait, grosso modo, tout de même, à conquérir l'Empire tout entier.
Et puis une conquête qui commence par un acte très symbolique. Il débarque, il faut le rappeler, en 334, troupes tout près du site de Troie, et on dit qu'Alexandre s'est rendu sur ce site en invoquant, évidemment, les souvenirs d'Achille, de Patrocle, etc. Pascal Charvet.
Oui, alors ça fait partie, effectivement, d'une image d'Alexandre, d'Alexandre plantant sa lance, évidemment, sur le territoire des mineurs, et se rendant immédiatement auprès des tombes, Héphaïstion, son ami, sur la tombe de Patrocle, lui sur la tombe d'Achille, et prenant ensuite ce qui est vrai, le bouclier d'Athéna. Alors je crois que là, on touche effectivement à ce double aspect qui est complexe, parce que quand on parle du divin ou de la divinité que cherche à être Alexandre, enfin, je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. Il y a cette croyance propre en tout grec que le divin est dans l'homme, et Alexandre a envie par là même de se surpasser, d'être ce héros. Il y a sans aucun doute ce désir de conquête à rien, peut-être celui qui l'a le mieux dit. Si Alexandre n'était pas mort, il aurait continué, il aurait accumulé, il aurait ajouté l'Europe à l'Asie et les îles britanniques. Enfin, bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a chez Alexandre effectivement ce désir d'émulation, ce désir de divinité, et en même temps, on le verra, il y a l'utilisation très simple, très stratégique auprès de populations, par exemple en Inde, du fait d'être un dieu. Enfin, sans y croire une seconde.
On y reviendra, mais bon. Mais
il se met sous le patronage d'Homère aussi.
Oui. Je crois qu'il faut insister sur des aspects parce que c'est pas uniquement de la propagande. Je pense réellement que Alexandre croyait à Homère. Je veux dire par là que toute éducation des Grecs, y compris des princes macédoniens, était fondée sur la lecture de l'Iliade et l'Odyssée. Et qu'il se soit lui-même, à titre personnel, investi dans une imitation ou dans une identification, une personnification d'un héros de l'histoire de la Grèce, tel qu'on se la représentait même en Grèce à l'époque classique, je crois que c'est important et qu'il y a trouvé certainement une sorte de source de confiance en lui. Donc c'est un aspect psychologique, mais psychologique qui est inséré dans l'espace social, dans la mesure où Homer, c'est l'éducateur de la Grèce.
Confiance en lui, puis tout de suite, confiance en lui confirmée par une toute première victoire, le Granic, en 334. Il remporte une première victoire sur une armée perse qui n'est pas très importante encore, hein, commandée par Memnon, et puis il va s'emparer de toutes les cités de la côte d'Asie mineure, les cités grecques, hein, qui sont Halicarnasse, Milet, Sardes, et Éphèse. Et au fond, au début, ça marche, si je puis dire.
Ben, ça marche très bien, mais c'est là où on se rend compte un petit peu. La première bataille qui est au départ en face, il a les satrapes perses d'Asie mineure qui en étude ont été chargés simplement par le roi de repousser Alexandre. Tout s'est joué en quelques instants. C'est-à-dire que Alexandre aurait pu aussi être repoussé à la mer. Donc ensuite, effectivement, dès lors qu'une bataille rangée est gagnée, c'est-à-dire que toutes les troupes qui avaient été rassemblées auparavant ont été débandées, il est évident qu'Alexandre trouve relativement une voie relativement libre, et même jusqu'à Halicarnasse en tout cas, mais et que les cités grecques ont été amenées à se rendre, pas seulement des cités grecques, mais même la capitale Sardes d'Asie mineure, Achéménide.
Et c'est le début d'une aventure dont nous parlerons encore demain avec vous, Pierre Briand et Pascal Chavet. Je vous remercie. Je rappelle, Pierre Briand, que vous êtes l'auteur d'Alexandre le Grand, de la Grèce à l'Indus, qui vient d'être réédité aux éditions Gallimard Découverte. Et vous, Pascal Chavet, vous venez diriger avec Olivier Battistini Histoire et dictionnaire d'Alexandre le Grand, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquin. Vous avez pu entendre des extraits du film Alexandre le Grand de Robert Rossen, disponible en DVD chez MGM, ainsi que du film d'Oliver Stone, Alexandre, qui sortira mercredi au cinéma. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com.